Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 22h à Paris, 21h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Après le crash aérien qui a fait une soixantaine de morts près de Washington, le président américain accuse les choix de ses prédécesseurs d'avoir conduit à ce drame. En Syrie, le président par intérim Ahmed al-Shara dit vouloir l'unité du territoire. Chez les Kurdes, un rapprochement s'opère entre deux parties autrefois rivaux pour parler d'une même voix avec les autorités de Damas. Le soulagement pour les familles des travailleurs agricoles thaïlandais pris en otage le 7 octobre dans la bande de Gaza. 5 Thaïlandais ont été libérés ce jeudi, 3 Israéliens également, des libérations permises dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Et puis au Chili, l'inquiétude des ONG, plus de 80 incendies de forêts ont été enregistrés ces derniers jours dans tout le pays et plus de 3000 hectares de forêts détruits. Au pouvoir, depuis moins de 2 semaines, Donald Trump est confronté à la pire catastrophe aérienne depuis plus de 2 décennies aux États-Unis. Une 60aine de morts dans la collision d'un avion de ligne et d'un hélicoptère militaire près de Washington. Les deux appareils se sont ensuite abîmés dans le fleuve Potomac. Une catastrophe qui fait office de test pour le président américain qui veut réduire fortement le rôle de l'État fédéral. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le républicain avait affirmé sur son réseau Truth Social que l'accident aurait dû être évité lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Donald Trump est allé plus loin, accusant ses prédécesseurs d'avoir baissé les exigences en matière de contrôle aérien.
Je mets toujours la sécurité au premier plan, alors qu'Obama, Biden et les démocrates mettent la politique au premier plan. Et ils ont mené leur politique à un niveau que nous n'avions jamais vu auparavant, c'est-à-dire au niveau le plus bas. La semaine dernière, bien avant le crash, j'ai signé un décret qui rétablit nos normes en termes de sécurité aérienne, et les membres de mon administration vont mettre la barre très haut en la matière, car nous avons besoin de personnes douées pour cela, et nous allons restaurer la confiance du peuple américain. Will restore faith in American
air travel. Des propos qualifiés d'abjects par l'ancien ministre américain des Transports. Alors que les familles sont en deuil, M. Trump devrait diriger et non mentir, a réagi Pete Buttigieg. La première ministre thaïlandaise se dit ravie de la libération des otages thaïlandais à Gaza. 5 d'entre eux ont été libérés ce jeudi. Leurs noms ont été diffusés, leurs familles prévenues. Ils travaillaient dans un kibbutz à côté de Gaza le 7 octobre. Pierre Olivier.
En Thaïlande, à 7000 km de Gaza, c'est tout un pays qui a suivi ce jeudi la libération de 5 des leurs. Aujourd'hui âgés de 28 à 36 ans, ces Thaïlandais seront hospitalisés quelques jours en Israël avant de pouvoir rejoindre leur domicile, en majorité dans la région d'Udon Thani, au nord-est du pays. Tous étaient ouvriers, agricoles et travaillaient dans des champs d'avocats à proximité immédiate de Gaza lors de l'attaque du 7 octobre. En quête d'un avenir meilleur, l'un d'entre eux était venu pour payer les soins médicaux de son père, un autre pour éponger ses dettes. Une libération qui a fait réagir la première ministre thaïlandaise qui se dit ravie et remercie la médiation de pays comme le Qatar, la Turquie et les États-Unis, ainsi qu'Israël pour sa prise en charge des otages. C'est la deuxième fois depuis le 7 octobre qu'un groupe de Thaïlandais est remis en liberté. Quelques semaines après l'attaque du Hamas, 23 d'entre eux avaient été relâchés après des négociations menées directement avec Bangkok. Les Thaïlandais forment de loin, après les Israéliens, le groupe le plus touché depuis le 7 octobre, avec au moins 46 personnes exécutées et 31 faites prisonnières.
Les 3 Israéliens ont aussi été libérés aujourd'hui, 2 femmes et un homme âgé. Des libérations permises dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Israël qui a confirmé la libération de 110 détenus palestiniens en échange. Un échange retardé de quelques heures puisque les autorités israéliennes protestaient contre le chaos qui a entouré la libération des premiers otages dans la bande de Gaza. La libération des prisonniers palestiniens a finalement été enclenchée après que le gouvernement israélien a dit avoir reçu la garantie que les prochaines libérations d'otages se feraient, je cite, en toute sécurité. En Syrie, ce premier discours à la nation de celui qui est désormais président par intérim, allocution télévisée d'Ahmed al-Shara, dans lequel Elle promet une conférence de dialogue national. Il dit également vouloir préserver la paix civile et l'unité du territoire. Dans le nord-est du pays, la Turquie poursuit ses bombardements contre la région autonome kurde, où deux personnes ont encore été tuées hier à Kobané. Face à cette situation, il est impératif pour les Kurdes de parler d'une même voix. Un rapprochement historique s'opère entre le parti de l'Union démocratique au pouvoir au Kurdistan syrien et l'opposition du Conseil national kurde exilé au Kurdistan irakien, où notre correspondant Luc Alazo a pu rencontrer son porte-parole.
Pour Jadahan Ali, porte-parole de l'opposition kurde syrienne et rencontrée à Erbil, il y a urgence à rassembler les différentes tendances politiques kurdes largement divisées depuis l'éclatement de la révolution en 2011.
Pour nous organiser en tant que Kurdes de Syrie, il faut commencer par réparer la maison kurde, avoir les mêmes positions, les mêmes revendications et nous faire ainsi une place à Damas alors qu'une nouvelle Syrie est en construction.
Un dialogue impensable il y a quelques semaines s'établit entre l'opposition en exil et le parti de l'Union démocratique qui administre le Kurdistan syrien. Jadahan Ali souligne cependant un préalable, mettre un terme à la guerre qui oppose ce dernier à la Turquie.
La Turquie peut tuer 5 des nôtres à chaque fois que les Kurdes en tuent 2 des leurs. Nous allons tout perdre si la nouvelle constitution s'écrit sans nous parce que nous sommes en guerre. L'intérêt des Kurdes ne sera pas préservé tant que nous sommes en guerre.
Au-delà de préserver l'autonomie du Kurdistan syrien, une feuille de route commune entre ces factions devrait faciliter le retour des 300 000 réfugiés kurdes syriens en Irak.
Notre devoir, c'est de trouver une solution pour que notre peuple retrouve ses terres. L'exil n'est plus un horizon dans la nouvelle Syrie. Il faut que les foules soient de retour si les élections sont organisées. Comment pourraient-elles se battre pour leurs droits si elles ne peuvent pas voter ?
Mardi, un accord a été trouvé entre les différentes parties kurdes pour envoyer une délégation commune à Damas et négocier d'une même voix avec l'autorité de transition. Luc Alazo, Erbil, RFI.
Après Kinshasa, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot est à Kigali, au Rwanda. Une démarche diplomatique qui vise à désamorcer la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements entre le M23 et les forces rwandaises et l'armée congolaise. Selon son entourage, le ministre français des Affaires étrangères va demander le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC. L'ONU, de son côté, se dit très inquiète de la situation volatile dans le sud Kivu. En particulier d'informations crédibles de l'avancée des troupes du groupe armé M23 vers Bukavu. Déclaration ce jeudi du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Il évoque également des informations faisant état de mouvements des forces de défense rwandaises à travers la frontière dans cette direction. Fin de citation. Au Chili, c'est un début d'année assez préoccupant selon les ONG. Plus de 80 incendies de forêt ont été enregistrés ces derniers jours dans tout le pays. Plus de 3300 hectares de forêt détruits. En cause, le changement climatique, oui, mais pas seulement, comme l'explique Estefania González, la directrice adjointe de campagne à Greenpeace Chili.
C'est une saison très préoccupante. Ce n'est pas la pire que nous avons enregistrée ces dernières années, mais le régime des feux s'est intensifié. Il a changé de modèle ces années passées. Il y a plusieurs raisons. Les conditions climatiques qui influencent bien sûr la situation avec l'augmentation des températures et nous subissons des vagues de chaleur avec des températures élevées. Mais il y a un fait pas moins important, une grande partie des incendies au Chili sont déclenchés par l'homme. Et il y a un autre enjeu important, c'est l'usage des sols. Il y a des interfaces urbaines et rurales où des populations humaines vivent dans un écosystème végétal. Et ça, c'est le risque majeur de propagation des incendies de forêt au Chili. Même s'il y a d'autres facteurs comme le changement climatique, l'aménagement du territoire, la disponibilité continue de matériaux combustibles pour le feu, dans les zones où il y a une population très proche de végétation locale ou exotique, eh bien ce sont des facteurs clairement déterminants pour comprendre ces feux au Chili.
Des propos recueillis par Juliette Pietraszewski au Brésil. Le président Lula dénonce le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. Le Brésil qui accueillera en novembre la COP30 dans la ville amazonienne de Belém. Lula qui a reproché aux pays riches de ne pas avoir dégagé assez de financement pour aider les pays pauvres à faire face au changement climatique. Du football au Brésil avec le retour de Neymar au FC Santos, le club qui l'a formé.